Chapitre 22. Brown Lamia s'aperçut que la marche de 4 heures qu'elle comptait faire au début se transformait en un cauchemar de 10 heures au moins. Il y avait d'abord eu le détour jusqu'à la cité des poètes, et le choix difficile avant de laisser Silénus derrière elle. Elle ne voulait pas qu'il reste seul, mais elle ne pouvait pas le forcer à continuer ni prendre le temps de le raccompagner au tombeau. Finalement, cela lui avait coûté une bonne heure de voyage. La traversée des dernières dunes et de la plaine rocheuse avait été monotone et exténuante. Lorsqu'elle était enfin arrivée au pied des collines, le soir commençait déjà à tomber et la forteresse se trouvait dans l'ombre. 40 heures plus tôt, cela avait été un jeu d'enfant que de descendre les 661 marches de la forteresse. Mais leur ascension était une dure épreuve, même pour ses muscles formés sur l'usus. À mesure qu'elle grimpait, l'air se refroidissait et la vue devenait plus spectaculaire. Arrivée à 400 mètres au-dessus de la base de l'escalier, elle s'aperçut qu'elle ne transpirait plus. La vallée des tombeaux du temps était de nouveau visible. Seul le sommet du monolithe de cristal était visible sous cet angle et uniquement sous la forme d'un miroitement irrégulier et d'un éclat de lumière. Elle s'arrêta quelques instants pour s'assurer que ce n'était pas un message. Mais le miroitement était le fait du hasard. Sans doute un panneau de cristal à moitié détaché de la façade et qui accrochait la lumière. Attaquant les 100 dernières marches, elle essaya une nouvelle fois d'utiliser son persoc. Les canocoms ne transmettaient que les parasites et les bruits de fond habituels, sans doute déformés par les marées du temps, qui interféraient généralement avec toutes les communications électromagnétiques, à l'exception de celles qui se faisaient sur de très courtes distances. Un lasercom aurait peut-être fait l'affaire. Cela semblait être le cas avec le persoc antique du consul. Mais en dehors de cette machine unique, maintenant que Cassad avait disparu, il ne possédait absolument rien. Haussant les épaules, elle grimpa les dernières marches. La forteresse de Chronos qui se dressait devant elle avait été bâtie par les androïdes du roi Billy le Triste. Ce n'était pas en fait une vraie forteresse. Elle avait servi de lieu de villégiature ou de résidence d'été pour les artistes. Après l'évacuation de la cité des poètes, l'endroit était demeuré désert durant plus d'un siècle. Seuls quelques aventuriers téméraires y avaient fait escale. Lorsque la menace du Gritch s'était estompée, les touristes et les pèlerins avaient commencé à fréquenter la forteresse. Finalement, l'église Gritchtek l'avait réaménagée en tant que gîte d'étape nécessaire aux pèlerins du Gritch. Certaines salles, creusées à même la montagne ou situées au sommet de tours difficilement accessibles, avaient la réputation de servir à l'accomplissement de rites ésotériques et d'obscurs sacrifices à la créature que les adorateurs du Gritch appelaient l'Avatar. Face à la réouverture imminente des tombeaux du temps et à l'évacuation des régions du Nord, la forteresse de Chronos était retombée dans le silence, et c'était vers cette masse silencieuse et impressionnante que Lamia se dirigeait maintenant. Le désert et la cité morte étaient toujours baignés par le soleil, mais Chronos se trouvait dans la pénombre lorsque Lamia arriva sur la première terrasse. Elle s'accorda quelques instants de repos, durant lesquels elle sortit sa lampe. Puis elle pénétra dans le dédale de corridors obscurs. À leur dernier passage, 2 jours plus tôt, Cassad avait fait une petite exploration des lieux et constaté que toutes les sources d'énergie étaient taries pour de bon. Les convertisseurs solaires étaient détruits, les cellules de fusion brisées, et même les batteries de secours avaient été fracassées. Leurs débris jonchaient les souterrains de la forteresse. Lamia n'avait cessé d'y penser pendant qu'elle grimpait les marches et qu'elle voyait les nacelles d'ascenseurs figées sur leurs rails verticaux rouillés. Les salles les plus vastes, affectées aux repas et aux réunions, étaient telles qu'elle les avait laissées 2 jours plus tôt. Partout s'étalaient des restes de festins abandonnés en hâte et des signes de panique. Il n'y avait aucun corps en vue, mais les traces brunes sur les murs de pierre et les tapisseries suggéraient des orgies de violence qui ne devaient pas remonter à plus de quelques semaines. Ignorant cette vision de chaos, ignorant les augures, ces gros oiseaux noirs aux traits obscènement humains qui s'envolaient à son approche dans la grande salle à manger, ignorant aussi sa fatigue, Elle se rendit dans les étages, jusqu'à la réserve de vivres près de laquelle ils avaient campé. Les marches semblaient se rétrécir d'une manière inexplicable. La lumière pâle, pénétrant par quelques rares vitraux encore intacts, jetait des reflets macabres. Là où il n'y avait plus du tout de vitraux, des gargouilles passaient la tête, comme figées au moment d'entrer. Un vent glacé soufflait des sommets enneigés de la chaîne bridée, faisant frissonner Lamia sous son coup de soleil. Les bagages et les paquetages excédentaires abandonnés par eux étaient restés comme ils les avaient laissés. Elle vérifia la présence de quelques provisions alimentaires non périssables dans leurs propres bagages, puis sortit sur le balcon où Lennart Hoyt avait joué de la balalaïka si peu de temps, et pourtant une telle éternité, auparavant. Les ombres des hauts sommets occupaient des kilomètres de sable, presque jusqu'à la cité des poètes. La vallée des tombeaux du temps et les étendues chaotiques au-delà languissaient sous la lumière du soir. Les pics et les formations rocheuses projetaient des ombres désordonnées. Lamia ne voyait pas les tombeaux du temps, à part un éclat occasionnel du monolithe. Elle essaya de nouveau son persoc, proféra un juron quand elle n'entendit que des parasites et un bruit de fond intense, puis rentra faire son choix de vivre. Elle prit 4 paquets de rations de base dans des emballages de mousse levée et de fibroplaste. Il y avait de l'eau en abondance à la forteresse. Le système des réservoirs alimentés par les sommets éternellement enneigés ne pouvait pas tomber en panne. Elle remplit toutes les gourdes qu'elle avait apportées et en chercha d'autres. L'eau représentait leur besoin le plus crucial. Elle maudissait Silenus de l'avoir laissé tomber en route. Il aurait pu porter au moins une demi-douzaine de gourdes supplémentaires. Elle allait ressortir lorsqu'elle entendit un bruit. Il y avait quelque chose dans la grande salle, entre la cage d'escalier et elle. Elle mit à l'épaule le dernier paquetage, sortit l'automatique de son père, et commença à descendre lentement les marches. La salle était déserte. Les augures n'étaient pas revenus. Les lourdes tapisseries, agitées par le vent, bruissaient comme des oriflammes en lambeaux au-dessus du désordre de nourriture pourrie et de vaisselle. Contre le mur opposé, l'énorme sculpture de chrome et d'acier représentant la tête du Gritch tournait sur elle-même sous l'action de la brise. Elle s'avança prudemment, en pivotant toutes les 3 ou 4 secondes pour ne jamais tourner longtemps le dos à un coin d'ombre. Soudain, un cri aigu la figea sur place. Ce n'était pas quelque chose d'humain. Cela ressemblait à un ululement dans l'ultrasonique et au-delà. Elle serra les dents et crispa la main sur la crosse de son arme. Brusquement, le cri cessa, comme un disque soudain interrompu. Elle voyait très bien l'endroit d'où était monté le bruit. Derrière la table de banquet, derrière la sculpture, sous les 6 vitraux, à l'endroit où les lueurs mourantes du jour distillaient des couleurs fades, il y avait une petite porte. La voix montait de là, comme si elle s'était échappée des profondeurs de quelque cachot souterrain. Braun Lamia était d'un naturel curieux. Toute sa vie avait été placée sous le signe d'un conflit avec une curiosité au-dessus et au-delà des normes, et cette tendance avait culminé dans le choix de la profession désuète et quelquefois amusante de détective privé. Plus d'une fois, sa curiosité l'avait mise dans des situations embarrassantes ou dangereuses. Mais il était arrivé aussi qu'elle soit récompensée par l'acquisition de connaissances auxquelles peu d'autres avaient accès. Cette fois-ci fit exception à la règle. Elle était venue chercher à boire et à manger. Aucun de ses compagnons n'avait voulu la suivre. Malgré le détour qu'elle avait fait par la cité morte, aucun n'aurait pu arriver ici avant elle. S'il y avait quelque chose ou quelqu'un d'autre, elle ne tenait pas à s'en mêler. Cassad ? Mais c'était impensable. Le bruit qu'elle avait entendu n'aurait pas pu sortir de la gorge du colonel. Elle recula, sans quitter la porte des yeux, le pistolet braqué dans sa direction. Elle trouva les marches qui descendaient et les suivit prudemment, chargée de 70 kilos de vivres et de plus d'une douzaine de gourdes pleines, passant le plus silencieusement possible devant chaque entrée de pièce. Elle entrevit son propre reflet dans un miroir terni du rez-de-chaussée. C'était celui d'une silhouette trapue, penchée en avant, le pistolet au poing, les épaules chargées d'une monstrueuse bosse de sacs difformes où étaient accrochées des boîtes et des gourdes qui s'entrechoquaient à chaque pas. Elle ne trouvait pas cela amusant. Elle poussa un soupir de soulagement quand elle émergea sur la terrasse par où elle était arrivée, dans l'air glacé et ténu, prête à entamer sa redescente. Elle n'avait pas encore besoin de lumière à l'extérieur. Les nuages bas projetaient sur le monde une lumière rose et ambre qui illuminait de ses riches tons pastels même la forteresse et ses alentours. Elle commença à descendre les marches deux à deux. Les muscles puissants de ses jambes étaient déjà endoloris lorsqu'elle arriva à mi-chemin des marches. Elle n'avait pas rangé le pistolet, mais le gardait à la main pour le cas où quelque chose la poursuivrait ou surgirait de l'une des nombreuses failles de la paroi rocheuse. Arrivée au pied des marches, elle se retourna pour regarder la forteresse. Des roches étaient en train de dégringoler vers elle. Parmi ces roches, elle s'aperçut qu'il y avait aussi des gargouilles détachées de leur perchoir de pierre, leur visage démoniaque éclairé par le crépuscule rosé. Elle se mit à courir, gênée par ses sacs qui s'entrechoquaient, se rendit vite compte qu'elle n'aurait jamais le temps de se mettre à l'abri et se jeta sous deux gros rochers inclinés l'un contre l'autre. Une partie des sacs ne passa pas par l'ouverture. Elle lutta pour défaire leur courroie, tandis que les premiers blocs dévalaient la pente, heurtaient les rochers alentour ou ricochaient par-dessus. Dans son effort désespéré, elle déchira des lanières de cuir, arracha des rabats de fibroplastes et réussit à se glisser au fond de l'abri avec tous ses sacs. Elle n'avait pas l'intention de retourner en chercher d'autres à la forteresse. Des blocs de la grosseur d'un poing ou d'une tête crépitaient partout autour d'elle. La tête de pierre d'un gobelin vola non loin, faisant éclater un rocher à moins de 3 mètres de là. Des cailloux s'abattirent un bon moment contre la double roche au-dessus de sa tête, puis le gros de l'avalanche fut passé. Elle se pencha pour tirer un de ses sacs un peu plus loin à l'intérieur. À ce moment-là, un caillou de la taille de son père-soc rebondit sur un rocher à l'extérieur, vola presque horizontalement vers son abri, ricocha 2 fois à l'intérieur, puis la heurta à la tempe. Elle reprit connaissance en gémissant comme une vieille personne. Sa tête lui faisait mal. Il faisait nuit noire au dehors. Seules les explosions de lumière des lointains combats stellaires éclairaient de temps à autre, par les fissures de la pierre, l'intérieur de son abri. Elle porta les doigts à sa tempe et rencontra la traînée de sang séché le long de sa joue et de son cou. Elle rampa à l'extérieur de l'abri, écarta quelques pierres qui jonchaient la plaine, s'assit quelques instants sur un rocher plat et pencha la tête en avant, résistant à l'envie de vomir. Ses paquetages étaient à peu près intacts. Seule une gourde avait été éventrée. Elle retrouva son pistolet là où elle l'avait laissé tomber dans le petit espace, derrière l'abri, qui était resté protégé de l'éboulement. Le paysage autour d'elle évoquait le chaos de la fin du monde. Elle fit une recherche sur son père-soc. Il s'était écoulé moins d'une heure. Rien n'était venu pendant qu'elle gisait inconsciente, lui tranchait la gorge ou l'emportait au loin. Elle se tourna une dernière fois vers les remparts et les terrasses de la forteresse à présent invisibles, rassembla ses sacs et reprit d'un bon pas le chemin jonché de cailloux insidieux. Martin Silenus ne l'attendait pas à l'entrée de la cité morte quand elle y arriva après avoir fait le détour. Elle n'en fut pas exagérément surprise. Elle espérait cependant qu'il s'était simplement fatigué d'attendre et qu'il avait repris seul le chemin de la vallée. La tentation de poser ses sacs et ses gourdes et de se reposer un peu, sous prétexte de l'attendre, était très forte. Mais elle y résista. L'automatique à la main, elle se contenta de faire le tour des rues de la cité morte. Les explosions de lumière dans le ciel suffisaient à la guider. Le poète ne répondit pas à ses appels. Des centaines d'oiseaux aux ailes blanches qu'elle était incapable d'identifier s'envolaient à son approche. Elle entra dans le palais du roi Billy, cria le nom de Silenus au pied de chaque escalier, tira même un coup de pistolet, mais tout cela sans résultat. Il n'y avait aucun signe de Silenus. Elle traversa des cours intérieures aux murs chargés de plantes grimpantes, hurla 1000 fois son nom à l'affût du moindre signe de sa présence. Elle passa, à un moment, devant une fontaine qui aurait pu être celle du récit du poète, devant laquelle le roi Billy le Triste avait disparu, emporté par le Gritch, mais il y avait beaucoup de fontaines dans la cité des poètes, et elle ne pouvait pas avoir la certitude que c'était bien la même. Elle pénétra jusque dans la salle à manger, sous le dôme aux carreaux cassés, mais tout était plongé dans l'obscurité. Elle entendit un bruit et se retourna vivement, le pistolet braqué. Ce n'était qu'une vieille feuille de papier que le vent faisait glisser sur le carrelage. Elle soupira et quitta la cité en marchant d'un bon pas malgré la fatigue et le manque de sommeil. Ses appels sur le père Soc étaient restés sans réponse. Elle n'en était pas surprise. Elle connaissait les effets des marées du temps sur les communications, et le vent du soir avait effacé toutes les traces que Martin aurait pu laisser en regagnant la vallée. Les tombeaux émettaient de nouveau un rayonnement lumineux visible du haut du col qui commandait l'entrée de la vallée. Ce n'était pas une lumière très forte comparée aux éclairs qui descendaient des étoiles, mais chaque tombeau semblait se libérer ainsi de toute l'énergie accumulée durant la journée. Elle cria pour avertir Sol et les autres qu'elle était de retour. Elle n'aurait pas refusé qu'on lui donne un coup de main, même s'il n'y avait plus que quelques centaines de mètres à parcourir. Elle avait la chemise et le dos en sang aux endroits où les courroies étaient entrées dans sa chair. Personne ne répondit à ses appels. L'épuisement l'envahit au moment où elle commençait à grimper lentement les marches du sphinx. Elle déposa son chargement sur le sol de pierre et chercha sa lampe. Il faisait noir à l'intérieur. Les paquetages et les couchages des autres jonchaient le sol de la chambre où ils avaient dormi. Elle les appela de nouveau, attendit que l'écho retombe, et balaya du rayon de sa lampe le sol et les murs. Rien n'avait changé. Ou plutôt, fermant les yeux, elle essaya de se rappeler l'endroit tel qu'il était exactement ce matin. Oui, il manquait quelque chose. C'était le cube de Mobius. L'étrange boîte à énergie laissée à bord du chariot avant par Etmastin n'était plus à sa place dans le coin. Elle haussa les épaules et ressortit. Le Gritch l'attendait. Il était juste devant la porte, plus grand qu'elle ne l'avait imaginé. Il la dominait. Elle recula, étouffant un cri. Le pistolet qu'elle brandissait toujours dans sa main semblait minuscule et futile. Elle lâcha la lampe qui roula par terre. La créature la regardait en penchant la tête. Une lueur rubis pulsait au fond de ses yeux à facettes. La lumière venue d'en haut formait mille reflets sur sa carapace hérissée de piquants. « Enfant de putain !» lui dit Lamia sans élever la voix. « Où sont-ils ? Qu'as-tu fait de Sol et du bébé ? Où sont tous les autres ?» La créature pencha la tête de l'autre côté. Ses traits n'étaient pas suffisamment humains pour qu'elle pût y lire une quelconque expression. Le langage du corps ne communiquait qu'une menace. Les doigts d'acier s'ouvraient et se refermaient comme des scalpels à la lame escamotable. Lamia fit feu à quatre reprises en plein visage. Les lourds projectiles de 16 mm atteignirent leur cible et continuèrent leur trajectoire sifflante dans la nuit.
« Je ne suis pas venu ici pour mourir, créature métallique de mon cul !»
reprit Lamia en visant posément puis en tirant une douzaine de projectiles qui atteignirent tous leur but. Des étincelles volèrent. Le Gritch redressa la tête comme pour écouter un bruit lointain. Puis il disparut. Haletante, Lamia s'accroupit, pivota plusieurs fois sur elle-même, les bras tendus en avant. Mais il n'y avait plus rien. La vallée était éclairée par les étoiles, il y avait une accalmie dans le ciel. Les ombres étaient d'un noir d'encre, mais lointaines. Même le vent avait cessé. Brown Lamia retourna en titubant vers ses paquetages, et s'assit sur le plus gros. Elle laissa les battements de son cœur reprendre leur rythme normal. Il était intéressant de constater qu'elle n'avait pas eu peur, pas vraiment. Mais elle ne pouvait pas nier la présence d'adrénaline dans son système. Le pistolet à la main, une demi-douzaine de balles dans le magasin et la charge de propulsion encore forte, elle prit une gourde et but longuement. Le Gritch apparut à côté d'elle. Son arrivée avait été soudaine et silencieuse. Elle laissa tomber la gourde en essayant d'amener de l'autre côté le bras qui tenait le pistolet. Elle aurait pu aussi bien faire ce mouvement au ralenti. Le Gritch tendit le bras droit. Les lames de ses doigts, longues comme des aiguilles à repriser, captèrent la lumière. L'une d'elles se glissa derrière sa tête, trouva une certaine partie de son crâne et s'enfonça à l'intérieur sans la moindre sensation de friction, sans autre douleur que celle d'une pénétration glacée et anesthésiante.